Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. C'est en 1997 que Henri Amouroux publia « Pour en finir avec Vichy, les oublis de la mémoire ». Il s'agissait d'un premier tome paru chez Robert Laffont, consacré à l'année 1940, qui n'était nullement un plaidoyer pour Vichy, mais simplement une œuvre d'historien, d'histoire, par opposition à la mémoire qui, elle, est sélective. Il s'agissait ainsi de rappeler des faits sur une période sujette à des jugements par trop manichéens. Cet ouvrage, pour en finir avec Vichy, s'inscrivait aussi comme le sommet de 40 années de recherche consacrées à une des périodes les plus passionnantes et les plus passionnées de notre histoire de France. 8 ans après, Henri Amouroux nous propose de compléter notre réflexion sur ce sujet. Pour en finir avec Vichy, les racines des passions, tel est le titre du tome 2 qui vient de paraître à nouveau chez Robert Laffont. Je vous propose au cours de 2 émissions d'Un jour dans l'histoire de découvrir cet ouvrage majeur, cet ouvrage capital pour notre réflexion sur la Deuxième Guerre mondiale. Une première émission consacrée aux deux personnages, De Gaulle et Pétain, ainsi qu'à la fameuse entrevue de Montoire, et ensuite une seconde émission qui, elle, abordera les revanches de Vichy autour de la question ecclésiastique, de la franc-maçonnerie et des juifs. Enfin, nous verrons que les intentions tant du maréchal Pétain que celles du général de Gaulle furent bien plus complexes, bien plus nuancées qu'on ne le croit. Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre de l'Institut, auteur d'une histoire magistrale, celle des Français sous l'occupation, parue chez Robert Laffont, rééditée dans la collection Bouquins, ce qui est un fait rarissime pour un auteur encore vivant. Dans une interview au Figaro en 99, vous disiez que votre livre, le tome 2, pour en finir avec Vichy, s'appellerait « Pétain de Gaulle, un combat pour les âmes ». Finalement, vous avez choisi, vous avez opté pour les racines des passions. Est-ce parce que, justement, les passions, Henri Amouroux, ne sont pas encore éteintes ?
C'est un problème d'âge, c'est pratiquement un problème de génération. C'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Il est bien certain que les fils n'épousent pas tous les passions des pères et que les petits-fils, et encore plus les arrière-petits-fils, ne les épousent pas du tout. Donc c'est un problème de génération, cela va en diminuant, en s'affadissant. Je le vois lorsque je fais des signatures de livres. Je suis allé, il y a quelque temps de cela, signer des livres avec le Figaro Magazine, avec plusieurs confrères, à Lyon. 80% des personnes qui viennent faire signer un livre ont plus de 70 ans, sont directement concernées, évidemment, par cette époque. Et puis, il y a quelque chose également très important auquel on ne réfléchit peut-être pas assez. Nous avons changé de siècle. Et changer de siècle, c'est une fracture, c'est une pliure. Nous sommes du 21e siècle, et le 20e siècle, ça paraît loin. Comme moi, je suis du 20e siècle, le 19e siècle était celui de mon père, de mon grand-père. Mon grand-père avait été fait prisonnier à Sedan. Il avait été, après, envoyé en Prusse. L'Allemagne n'existait pas en tant que telle. Et pour moi, lorsque j'avais 12 ans ou 13 ans, la défaite de 1870, je voyais un homme qui avait connu la défaite de 1870, ça me paraissait très loin. Alors là, les problèmes sont très différents. Il y a eu des passions qu'il n'y avait pas en 1870. Mais évidemment, si les fils et les filles les épousent encore, les petits-enfants, les enfants, les épousent beaucoup moins. Et on en arrive alors à la caricature et au manichéisme. Mais certainement, vous me poserez une question sur la caricature et sur le manichéisme.
Oui, parce que finalement, cette question du manichéisme, vous la rejetez. Vous faites vraiment un travail dans la nuance. Vous montrez la complexité des faits et notamment de cette histoire de Vichy.
Mais de toutes les histoires. On ne comprend rien à l'histoire si on ne la réintègre pas dans la complexité. Pas une année, je veux dire, pas un mois ne ressemble à un autre mois. Juin 40 et juin 41 sont des mois essentiellement différents. L'Allemagne, si on veut résumer les choses en 2 dates, l'Allemagne perd la guerre en 2 jours de 1941. L'Allemagne perd la guerre le 21 juin 1941 lorsqu'elle attaque la Russie. Enfin, a une chance de perdre la guerre, si je veux dire. Lorsqu'elle attaque la Russie. Et elle perd sûrement la guerre le 9 ou 10 décembre 41, lorsqu'elle déclare par fidélité à l'alliance japonaise, lorsqu'elle déclare la guerre aux États-Unis. Et déclarer la guerre aux États-Unis en 1941, c'est se condamner pour l'Allemagne, c'est se condamner à perdre la guerre, c'est se condamner à mort. Et il faut comprendre, à ce moment-là, non pas avec les événements, non pas avec les moyens techniques d'aujourd'hui, car aujourd'hui, il y a des missiles intercontinentaux, il y a les bombes nucléaires, tout ça n'existe pas en 1940, 41, 42, 43, 44. Les États-Unis peuvent travailler, les usines américaines peuvent travailler à l'air libre, peuvent travailler toutes les lumières allumées, peuvent travailler sans craindre le moindre bombardement. Ce n'est pas vrai pour l'Allemagne. Et ce jour-là, Hitler, par méconnaissance totale d'ailleurs de l'étranger, car Hitler, l'Autrichien Hitler, qui était passionné par l'Allemagne, l'Autrichien Hitler qui, en 1914, s'engage dans une armée allemande parce qu'il n'aime pas l'Autriche, n'était jamais sorti de l'Allemagne, jamais. Pour aller quelques jours en Italie, puis pour venir deux jours en France après la victoire sur la France. C'est pas ça qui permet de connaître. Et il méprisait, il ne connaissait pas la puissance américaine. Il avait fini, c'est le fait de tous les dictateurs, il avait fini par croire à la propagande qu'il avait créée. Lorsque vous créez une propagande, vous savez que vous créez un flot de mensonges. Et si vous en êtes victime, vous êtes fichu.
Alors, la guerre, bien évidemment, est une guerre mondiale. Et le général de Gaulle avait très bien compris le fait que la guerre allait devenir une guerre mondiale.
La guerre n'est pas une guerre mondiale en 39-40.
Bien sûr, elle n'est pas une guerre mondiale en 39-40. Elle ne le devient qu'après. Et ça, de Gaulle, vous le dites dans votre livre, oui, l'a très bien compris.
Mais de Gaulle, je le dis, mais c'est facile de le dire, puisque les discours du général de Gaulle sont là, et ce sont des discours prophétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? C'est pas quelqu'un qui vous dira demain matin, à 8h, il fera jour. Non, il fera jour à 8h ou 9h, si c'est le grand hiver, et s'il pleut beaucoup, on verra moins, mais il fera jour. Sauf événement dramatique, une bombe nucléaire, etc. Bon, donc c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, voyant les événements tels qu'ils sont, les prolonge. Et la grande qualité, l'une des grandes qualités du général de Gaulle, c'est qu'il était d'abord un historien. C'est un historien. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a le nez collé sur la vitre, c'est quelqu'un qui voit loin. Et qui tire de l'histoire un certain nombre d'enseignements. Alors, il tire très vite. Dans son appel du 18 juin en filigrane, mais tout de suite, à partir du 24, je crois que c'est le discours du 24 juin, je crois, enfin, je me trompe pas, si je me trompe, c'était à 24 heures près, il dit tout de suite, la guerre ne sera pas une guerre mondiale. Les alliances, il fait allusion naturellement à l'alliance entre la Russie et l'Allemagne, les alliances ne sont pas éternelles, c'est très vrai, les alliances contre nature, car l'alliance germano-soviétique, c'était l'alliance d'Hitler et l'alliance de Staline, c'était une alliance contre nature politique. C'était le chien et le chat, ça redeviendra un jour le chien et le chat, même s'ils font alliance pendant quelques mois ou quelques années. Et puis ensuite, il dit, les États-Unis viendront au secours, il ne dit pas entreront en guerre, mais il sait ce que c'est que la puissance américaine, viendront au secours des alliés. C'est exactement ce qui va se passer. Exactement ce qui va se passer. Cela supposait une condition essentielle, évidemment, car la guerre n'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre franco-britannique contre l'Allemagne, contre le Reich, puisque la Pologne est attaquée et disparaît en quelques semaines, en un mois pratiquement. Donc c'est une guerre franco-britannique et la France étant battue, il n'y a plus que l'Angleterre qui soutient la guerre. Et l'Angleterre soutient la guerre, mais il faut raconter autant que possible des choses d'une façon exacte. C'est grâce à Churchill. Il y avait en Angleterre un parti assez important qui était, lui, favorable à une entente, à une paix blanche. Et Hitler souhaitait une paix blanche. Hitler aurait pu tenter, enfin, on va pas refaire l'histoire, surtout l'histoire militaire, comme ça, 60 ans plus tard. Mais Hitler souhaitait, au fond, un accord avec l'Angleterre. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi. Il y a des tas de petites choses minuscules, de petits faits minuscules qui, raccordés entre eux, permettent de comprendre les choses. Hitler ne s'est jamais battu contre les Français en 14-18. Il s'est battu uniquement sur le front qui était tenu par les Britanniques, qui tenaient un front important, le tiers à peu près du front à l'ouest. Et il s'est battu uniquement contre les Britanniques. Il avait une grande estime pour les Britanniques. Et il n'avait pas... les Français ne connaissaient pas, ils n'aimaient pas. Donc, il avait espéré Il avait espéré un accord avec Metternich. Et la guerre deviendra une guerre mondiale uniquement parce que les Anglais tiennent. Mais les Américains pensaient que les Anglais allaient être vaincus, allaient être battus. Si bien que d'ailleurs, Roosevelt avait demandé à Churchill d'envoyer la flotte anglaise aux États-Unis.
Alors, je vous propose, Henri Amouroux, de revenir peut-être un peu en arrière. Vous consacrez toute la première partie de votre livre, c'est la plus importante. Votre livre compte 4 parties. La première partie, plus de 300 pages, est consacrée au général de Gaulle et au maréchal Pétain et à leur parcours respectif. Et ce sont deux hommes qui se connaissaient très bien, qui se connaissent depuis bien longtemps.
Oui. Alors, ils sont nés, évidemment, à des époques très différentes. Philippe Pétain, né dans une famille paysanne, dans le Nord, est né en 1856. Là aussi, il faut savoir ce que ça veut dire, 1856. Ça veut dire, plus près de Waterloo, 1815, que de Sedan, 1940. Plus près de la rencontre d'Alexandre et de Napoléon, que sa rencontre avec Hitler à Montoire. Plus près. Et il a appris le latin avec un prêtre, l'abbé Legrand, qui avait fait la campagne d'Italie avec Bonaparte à Arcole. Puisque Napoléon n'a jamais fait la guerre en Italie, il a fait la guerre partout, mais pas en Italie. Bonaparte, oui. Donc ce curé, ce prêtre, qui va apprendre le latin à cet enfant, a fait la campagne d'Italie avec Bonaparte, il se trouvait à Arcole. C'est prodigieux. Et son grand-père avait vécu la Révolution française.
Et cette vie...
Alors, Pétain donc est colonel, et il commande le 33e régiment d'infanterie à Arras. Le colonel de Gaulle, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, né en 1890, dans une famille tout à fait différente, intellectuelle, bourgeoise, pas riche, mais cultivée, et très à droite d'ailleurs, monarchiste, à droite, religieuse, très pieuse. L'amour de la patrie, Et il sort, de Gaulle sort, le sort de Saint-Cyr, Charles de Gaulle sort de Saint-Cyr dans un très bon rang. Lorsque en 7 ou 8, et à ce moment-là, il aurait pu choisir son arme. Il avait le choix, en fonction de son rang, de choisir son arme. Alors aujourd'hui, ceux qui sortent choisissent l'aviation, les armes techniques, etc. Il choisit, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il choisit les officiers, les jeunes officiers qui sortaient de Saint-Cyr en très bon rang, choisissaient la cavalerie, naturellement. Il choisit le 33e régiment d'infanterie à Arras, où il avait fait d'ailleurs ses classes, puisque les futurs officiers devaient faire une année dans un régiment pour y apprendre un peu leur métier, être surtout au contact avec les hommes. Et il va au 33e régiment d'infanterie, qui c'était un régiment qui n'était pas le plus illustre de l'armée française. Il s'était battu dans les armées napoléoniennes, certes, et puis en 1800, et aussi dans les campagnes d'Italie avec Napoléon III. Enfin, c'était pas un régiment célébrissime, si j'ose dire. Mais il était commandé par le colonel Pétain. Et le colonel Pétain avait une réputation dans l'armée, on l'appelait Précy le Sec. Il avait une réputation d'être un novateur, pardonnez-moi le mot, un emmerdeur, c'est-à-dire de dénoncer, ce qui ne favorisait pas son avancement, de dénoncer toutes les erreurs, tous les textes précédents.
Alors, quels furent les rapports des deux hommes à ce moment-là? C'est ce que je vous propose de voir, monsieur Amouroux, dans un instant.
Balzac,
Maupassant,
Proust,
Guizot,
Chateaubriand.
Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages.
En direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Amouroux, membre de l'Institut, auteur du tome 2 de Pour en finir avec Vichy, Les racines des passions 1940-1941, paru chez Robert Laffont. Alors nous évoquions, Henri Amouroux, les rapports de Gaulle et du futur maréchal Pétain.
Vous savez, les rapports, ils étaient de lieutenant à colonel. Et on ne tapait pas sur le ventre ou sur l'épaule du colonel. Aujourd'hui non plus, je pense. Mais les rapports étaient beaucoup plus distants qu'on n'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de rapports humains, presque. Et on ne respecte plus les gens en fonction de leur titre, ou presque plus. On les brocarde, on se fiche d'eux, on se moque d'eux. Bon, c'était pas ça du tout. Hein. C'était pas ça du tout. Pétain, d'abord, en imposait. Par sa stature, il n'était pas très grand, peut-être, il mesurait 1m69, 1m70, mais il était d'abord bel homme, faisant des conquêtes féminines, ça c'est un autre sujet, et sec, pas du tout romantique comme sera de Gaulle, pas du tout Chateaubriand comme sera de Gaulle, pas du tout une écriture avec beaucoup d'adverbes, de mots, d'adjectifs, pas du tout ça, c'était une écriture sèche, comme le personnage, n'est-ce pas, est très sûr de soi, certes, et très en contradiction avec tout ce qu'on s'en enseignait à l'école. Tout ce qu'on enseignait. Et De Gaulle, à ce moment-là, était, lui, pour l'enseignement de l'école, lorsqu'il parle pour l'enseignement de classique, c'est-à-dire qu'on enseignait qu'il fallait faire les charges à la baïonnette. Car il y avait tous les textes, tous les ordres étaient pour une guerre presque napoléonienne, avec des charges à la baïonnette. On avait trouvé ça dans un texte d'un général russe qui s'appelait Souvorov et qui s'était battu contre les armées françaises et qui l'est d'ailleurs battu à un moment donné en Suisse pendant la Révolution française et qui avait trouvé cette phrase qui était vraie à l'époque mais qui était fausse depuis. La baïonnette est sage, la balle est folle. C'était vrai à l'époque, parce qu'il fallait du temps pour charger, recharger. Bon, et puis l'infanterie, et surtout la cavalerie ennemie, était sur vous tout le temps. Et Pétain avait étudié la guerre balkanique, les guerres des Balkans et la guerre russo-japonaise d'abord. Et il avait trouvé cette formule qui nous paraît tout à fait évidente aujourd'hui. Le feu tue. Ça ne passait pas, et même auprès des jeunes officiers comme De Gaulle. De Gaulle fait, le lieutenant De Gaulle fait un cours, un exposé à ses soldats, n'est-ce pas? Et il leur dit, ce sera, il faudra que vous chargiez à la baïonnette, enfin, vous permettez de vaincre les Allemands. Pourquoi? Parce qu'il y a un romantisme, si j'ose dire, un romantisme de la baïonnette, et pas un romantisme de l'artillerie. Et alors, bon, Pétain et cela, si la guerre n'avait pas été déclarée en 1914, n'est-ce pas, Pétain prenait sa retraite. J'ai retrouvé beaucoup de lettres de Pétain à la même femme, d'ailleurs. J'ai retrouvé 400 lettres à la même femme, qui était sa maîtresse, puis devenue sa femme. J'ai retrouvé également son carnet. Le carnet sur lequel, étant célibataire, puisqu'il est marié en 1920, étant célibataire, il marquait les invitations. Et du dimanche, le colonel invitait des officiers à déjeuner, des jeunes officiers. Et il y a marqué, lieutenant, je me souviens de deux noms, lieutenant Bourquin, je ne sais pas pour quelle raison je m'en souviens, mais je m'en souviens, et lieutenant De Gaulle. Et De Gaulle a été protégé par Pétain très longtemps, très très longtemps, jusqu'au moment où en 1935 il change de protecteur et il est protégé par Paul Reynaud, il est soutenu par Paul Reynaud, mais De Gaulle va être le poulain de Pétain avec son caractère, le caractère du colonel, du lieutenant, capitaine, colonel, commandant De Gaulle, qui était abrupt, difficile, de talent, etc., etc., sûr de soi, et Pétain qui avait en froid, en homme froid, ce que De Gaulle avait en homme chaud et passionné. Mais les deux hommes se sont connus, et vous savez, le plus bel éloge du maréchal Pétain, du général Pétain, se trouve sous la plume du général De Gaulle, ou du colonel De Gaulle, écrite en 1948, lorsqu'il fait le portrait de Joffre qu'il n'a pas connu, de Foch qu'il n'a pas connu, et De Gaulle était un admirable portraitiste. Il devait prendre un plaisir immense à tracer le portrait de quelqu'un, parce que c'est un ciseleur de mots. Il écrivait lentement, d'ailleurs, le général De Gaulle, mais très bien, admirablement bien, inspiré souvent par Chateaubriand. Et le meilleur des portraits, c'est celui de Pétain. Et si à Vichy, les gens de Vichy avaient eu l'idée tous les jours de citer ce passage du général de Gaulle, alors que Londres critiquait ça, c'est évidemment Pétain. S'il avait sorti ses compliments sur le maréchal Pétain, c'eût été fort gênant pour le général de Gaulle à Londres. Mmh. Car c'est lui qui disait, lorsqu'il fallut choisir entre la ruine et la raison, Pétain fut promu. Lorsqu'il fallut choisir entre la ruine et la raison, Pétain fut promu. Donc, il y a eu ça, puis alors il y a eu entre une querelle d'écrivains, les querelles d'écrivains qui sont des querelles toujours fort ardentes, difficiles à régler, parce que les querelles d'écrivains, c'est quelque chose. Les querelles d'hommes politiques, c'est rien à côté des querelles d'écrivains.
Alors, vous avez bien insisté sur le décalage de génération. Pétain, qui était plus proche de Waterloo que de Montoire. Vous avez également évoqué la thèse du feu qui tue. Vous revenez dans votre livre sur les trois arguments que le général de Gaulle va utiliser pour, je cite, dépouiller le maréchal Pétain de sa gloire. Nous sommes en 1940, en utilisant précisément l'âge, la vieillesse du maréchal, deuxièmement la responsabilité de Pétain dans l'impréparation de l'armée, et enfin la trahison de Pétain par l'armistice. Alors avant de voir cette question de l'armistice, qu'en est-il exactement de cette vieillesse du maréchal? Est-ce que c'était un homme véritablement décalé par rapport à son époque? Est-ce que ce n'était pas l'homme de la situation? Et deuxièmement, est-ce que la responsabilité du général Pétain dans l'impréparation de l'armée était également réelle?
Alors, écoutez, j'ai un an et demi de plus que le maréchal Pétain lorsqu'il a été à Vichy et que l'Assemblée lui a donné le pouvoir. J'ai donc un an et demi de plus. Je me sens vieux, bien sûr, je ne crois pas être gâteux. Il ne faut jamais oublier que la médecine a fait des progrès. Si on nie les progrès de la médecine, on ne comprend rien non plus. Mais le maréchal Pétain n'avait jamais pratiquement été malade. C'était un homme dans une santé admirable. Mais il est bien évident que la fatigue joue davantage à 84 ans, puisqu'il a 84 ans et demi. Il est d'avril 1856. Il a 84 ans et demi, n'est-ce pas, lorsqu'à Vichy, il reçoit le pouvoir d'une assemblée qui lui vote le pouvoir, moins 80. Bon, député et sénateur. Donc, il est évidemment fatigué, et il sera, je ne veux pas dire qu'il est au courant, pas plus qu'aujourd'hui un homme de 81, un peu plus de 84 ans, d'être au courant d'Internet, de la fonction, de la façon admirable dont marche Radio Académie, Canal Académie. Je ne le sais pas, c'est plus mon temps, c'est plus mon époque. Or, il serait pourtant très important que ceux qui dirigent sont fatalement au courant des techniques, de tous les moyens. Et puis, on est évidemment dépassé. Et c'était un homme qui, par sa formation et son âge, n'avait pas été formé à comprendre ces deux grandes religions que sont le nazisme d'une part et le communisme d'autre part. C'est pas son époque. Son époque, c'est Guillaume II, si vous voulez. Mais c'est la fin, d'ailleurs, de sa vie militaire, de sa grandeur militaire. De Gaulle est beaucoup plus jeune, beaucoup plus... Et De Gaulle lui-même sera saisi par la vieillesse. Car De Gaulle, en 68, pas simplement les étudiants, pas seulement les gamins, pas seulement les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils crient en mai 68, De Gaulle au musée? Or, De Gaulle n'a pas l'âge de Pétain. De Gaulle, en 68, n'a pas l'âge de Pétain. Il a 78 ans. Il n'a pas 84 ans. Et De Gaulle, dans tous ses livres, dans toutes ses confidences, il part en 69, après le référendum raté de 69, en disant, mais la vieillesse, ce qu'il avait écrit à propos de Pétain, toute la vieillesse est un naufrage, et en disant, je ne veux pas être atteint par la vieillesse. Je ne veux pas... Le ciel a servi l'histoire du général de Gaulle, car il meurt subitement. Mais imaginez le général de Gaulle traînant une vieillesse avec une maladie d'Alzheimer, par exemple, comme ça arrive à des tas de gens qui sont des gens qui ont été connus, qui, je pourrais citer, je ne citerai évidemment pas de nom, qui ont eu une activité très grande, et qui, lorsqu'ils mourront, qui sont malades depuis 10 ans, et lorsqu'ils mourront, on dira, tiens, il est mort. Je croyais qu'il y avait longtemps qu'il était mort. Alors, bon, Pétain était fatigué, plus fatigué le soir que le matin. Il disait plus facilement oui le soir que le matin, et Laval le servait bien. Lorsque Laval revient au pouvoir en 1942, certainement l'une des grandes erreurs du maréchal Pétain, c'est à ce moment-là, alors qu'il n'avait plus, après novembre 42, après l'entrée des Allemands en zone libre, et le pouvoir total donné à Laval, le pouvoir total, à la mesure où c'était limité par les Allemands, donné à Laval, Pétain ne représentait plus qu'une façade. Et Laval venait le voir le soir, parce qu'on sait bien que le soir, la volonté est usée, que le soir, on dit plus facilement oui que le matin, à 9h ou à 8h30. Mmh. Donc l'âge, bien sûr, mais de Gaulle, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre quelque chose de fondamental. Pour obtenir le but qu'il s'est fixé, qui est un transfert de légitimité, puisque de Gaulle à Londres est seul. Il écrit, c'est le début des mémoires de guerre. Il est seul. Il n'y a pas 100 personnes avec lui, 200 personnes, et puis qui ne comptent pas, qui ne sont pas connues. Ce sont des gens qui deviendront des héros, certains qui auront des postes au pouvoir en 45, 46, ce que vous voudrez, mais il est seul. Pas connu, en dehors d'un cercle, d'un cercle militaire. Il se heurte au maréchal Pétain, Verdun. Verdun, il y avait encore 5 millions, là aussi. Les derniers sont morts ou vont mourir, il en reste 6, je crois. 5 millions d'anciens combattants. Mais 5 millions d'anciens combattants sont des hommes qui ont des femmes, qui ont des familles, qui prolongent la légende, qui poursuivent la légende. Et Verdun, c'est d'abord la dernière bataille gagnée par les Français, seule. Après, il n'y aura plus que des victoires de coalition, que des défaites. La dernière bataille gagnée par l'armée française, seule, c'est Verdun. Il n'y en a plus. Bon. Alors, De Gaulle, pour obtenir ce qu'il voulait, le transfert de légitimité, il le dit tout de suite, Vichy est légitime, il faut donner des arguments forts. Et l'argument fort, la vieillesse, bon d'accord, les Français de France qui vivaient en France, il y a 40 millions de Français, n'étaient pas contre la vieillesse. Aujourd'hui, le jeunisme est à la mode, je sais bien. Mais à l'époque, d'abord, les jeunes étaient dans les camps de prisonniers, parce qu'il y avait 2 millions de prisonniers. Alors c'était surtout les jeunes, bien entendu. Donc il fallait vivre avec un peu des gens un peu âgés. Et puis la vieillesse était plus respectée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui n'était pas totalement idiot, parce qu'on peut être d'un certain âge et être encore en activité. Alors, il y avait l'argument de la vieillesse. L'argument, c'est lui qui a fait l'armée que nous avons, qui est une armée qui a perdu la guerre. Il est vrai que Pétain est resté jusqu'en 25, oui, le patron de l'armée française, mettons un petit peu plus longtemps et son influence s'étendait. Mais enfin, le général, monsieur Daladier était ministre de la guerre pendant 5 ans avant la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'il revient au pouvoir, nous sommes en 1933, Pétain ne joue pratiquement, sauf il est ministre du gouvernement en 34, ministre de la guerre, mais après, il y a l'armée allemande se réarme en 4 ans, en 5 ans, et l'armée française ne se modernise pas. C'est plus Pétain, c'est Daladier et Gamelin, qu'il ait eu une influence, c'est vrai, qu'il ait commis des erreurs, c'est vrai, notamment en disant que les Ardennes étaient infranchissables, la forêt des Ardennes était infranchissable. Il ajoutait, si on fait les fortifications nécessaires, etc., elles n'avaient pas été faites. Il est vrai que, mais il est vrai aussi que, contrairement à beaucoup d'autres, il avait vu le rôle de l'aviation, et il avait beaucoup insisté sur le rôle de l'aviation, mais il ne pouvait pas tout faire, et que le problème français, le problème de l'armement français, c'est que pour éviter les tueries, la répétition des tueries des premiers mois des derniers mois de 1914, mais des derniers mois de la guerre, on a construit la ligne Maginot, et que l'argent n'étant pas inépuisable, on a tout investi dans la ligne Maginot, l'argent, les milliards et les milliards qui auraient pu être investis dans une aviation moderne, ou dans les chars, nous en avions autant que les Allemands, et De Gaulle avait parfaitement raison lorsqu'il disait, il ne faut pas les éparpiller le long du front, il faut les grouper en divisions cuirassées. Les Allemands en avaient 10, en 40, en mai 40, nous n'en avions que 4, et encore une seule avait fait des exercices, une seule, toutes les autres, et celle de De Gaulle, la 4e d'essai, sera formée sur le champ de bataille. Alors, troisième argument, la trahison, ça ne tient pas au vent, c'est évidemment de la propagande, car De Gaulle fait de la propagande. Vichy fait la propagande, Londres fait la propagande, Berlin fait la propagande, Washington fait la propagande. En guerre, tout le monde fait la propagande. Même quand j'ai pas la guerre, tout le monde fait la propagande. Mais pourquoi ces arguments qui ne sont pas repris par la radio de Londres? Maurice Schumann, qui était le porte-parole du général de Gaulle, est en retrait par rapport aux accusations lancées par le général de Gaulle. Quant à Jacques Duchesne, qui était un ancien combattant de 14-18, et qui disait à la radio de Londres, j'ai vu venir en 1917, car il y a Verdun, mais il y a aussi 1917, quand Pétain a empêché les mutineries de dissoudre totalement l'armée française, et d'avoir en France ce qu'il y avait eu en Russie, c'est-à-dire une révolution bolchevique. Duchesne, qui parlait à la radio de Londres pratiquement tous les soirs, disait, j'ai vu venir le maréchal Pétain, je me souviens, en 1917. Ces gens-là étaient influencés, ils ne croyaient pas du tout à la trahison. Et les Français ne croyaient pas à la trahison.
Alors justement, dans ce contexte, quelle est la portée de Montoir, Henri Amoroux? C'est ce que nous allons voir dans un instant. À tout de suite. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amoroux, membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et auteur dernièrement du livre Pour en finir avec Vichy. Il s'agit du tome 2, le premier tome, Les oublis de la mémoire, 1940 et paru en 1997, et en 2005 est paru le tome 2, donc Les racines des passions. Alors, après avoir évoqué le général de Gaulle, le maréchal Pétain, venons-en à cette fameuse entrevue de Montoir. Vous y consacrez toute votre seconde partie, cette fameuse entrevue de Montoir, prise hors de son contexte. Bien sûr, Montoir est un symbole, celui du renversement des alliances, dites-vous, et de la collaboration. Alors que prise dans son contexte, eh bien Montoir, c'est tout autre chose.
Montoir, c'est également la réflexion obligée du vainqueur, du vaincu plus exactement, qui découvre que la guerre sera longue. Au début, si vous voulez, après mai 40, juin 40, après juin 40, juillet 40, beaucoup en France, et pas simplement en France, je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit aux États-Unis aussi, en Angleterre aussi, pensent que l'Allemagne va gagner la guerre. L'armée française était considérée comme la première armée du monde. Il faut retrouver, si vous avez, puisque vous vous passionnez par l'histoire, et vous avez bien raison, parce qu'elle apprend beaucoup, puis elle donne beaucoup de plaisir.
Oui, maîtresse de vie et de vérité.
Vous retrouverez les journaux du 14 juillet 1939, le dernier défilé de l'armée française avant la défaite. Et que lirez-vous dans ces journaux, le titre ? Nous avons vu défiler une armée irrésistible. Irrésistible. Et cette armée irrésistible a fondu sous le feu en 5 semaines. En 5 semaines de mai. Ça a été une catastrophe, bien sûr, pour la France. Un ahurissement général. Comment? C'est l'armée française qui avait battu l'armée allemande, qui avait, en 14-18, c'est la grande armée française qui est écrasée comme ça. Bon. Donc, on pense que les Anglais tiendront pas. D'autant plus que, bon, ils n'avaient pas été extraordinaires en 1940. Ils avaient protégé l'Angleterre, ils avaient sauvé le maximum d'armes, non pas d'armes d'ailleurs, parce qu'ils ont du tout laissé sur place, le maximum d'hommes, et le retour d'ailleurs de ceux qui évacueront la France, des hommes qui deviendront Montgomery, qui deviendront Gort, qui deviendront des chefs, des futurs chefs de la grande armée britannique. Mais il y a peu de gens qui parient sur la victoire anglaise. Et puis l'Angleterre va tenir et on arrive en septembre. Septembre, 15 septembre, 16 septembre, c'est le jour, un jour charnière. Hein. À ce moment-là, on le sait après, on le saura après, parce que vous pouvez pas regarder les ordres allemands comme ça par-dessus l'épaule du chef d'état-major de l'armée allemande. Mais le chef d'état-major de l'armée allemande reçoit l'ordre d'Hitler, finalement, le jour de l'invasion est repoussé ad vitam aeternam, enfin repoussé. On n'envahit plus, la tentative d'invasion est repoussée à l'an prochain. Bon, bien entendu, les gens qui étaient à Vichy, les officiers français, le général Weygand, le maréchal Pétain, c'était pas une collection d'imbéciles. Ils savaient très bien que si l'invasion ne se faisait pas en septembre, elle ne se ferait pas en 40. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'il faut pouvoir traverser, il faut l'état du ciel, il faut l'état de la mer, et il faut pouvoir ravitailler les gens que vous avez amenés, il faut avoir la maîtrise de l'air, laquelle maîtrise de l'air, l'aviation allemande n'avait pas. Elle ne l'avait pas. Non pas que les aviateurs allemands étaient pas aussi, ils étaient souvent supérieurs en technique que les aviateurs anglais, en courage ils étaient égaux les uns et les autres, car c'était des hommes très courageux, mais il faut penser une chose très simple, toutes ces petites choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il faut additionner. Quand un aviateur allemand est abattu au-dessus de l'Angleterre, s'il saute en parachute, il est fait prisonnier. Lorsqu'un aviateur anglais est abattu au-dessus de l'Angleterre, il saute en parachute, et s'il s'est pas cassé la jambe, il peut remonter dans un avion, et il remonte dans un avion, quelquefois le jour même, le lendemain en tout cas. Et les aviateurs anglais avaient mission de ne pas poursuivre les avions allemands au-dessus de la Manche, pour pas être descendu au-dessus de la Manche, tomber à l'eau, et à ce moment-là, la récupération est beaucoup plus difficile. Donc, en septembre, octobre, le maréchal Pétain sait très bien que la guerre sera longue. Or, une guerre longue impose une conversation, un entretien entre le vainqueur et le vaincu. Parce que la France vaincue, c'était la France d'abord coupée non pas en deux par la ligne de démarcation, mais en beaucoup plus de deux. L'Alsace et la Lorraine, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle avaient été immédiatement réannexés par l'Allemagne. 7 départements de l'Est étaient en zone interdite. C'est-à-dire que les gens qui étaient partis avec l'Exode, qui a transporté 8 millions, il y avait 40 millions de Français, c'est presque le quart de la population qui fout le camp et qui va dans le sud, le sud-ouest. Bon. Ces gens qui sont partis des départements d'Est ne peuvent pas revenir. Les Allemands leur interdisent de revenir. Ils prennent leur maison, ils prennent leur champ, ils mettent là des ouvriers polonais avec des contrôleurs allemands, des chefs de culture allemands. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration belge, de Bruxelles, à l'administration de Bruxelles. Et la France paie 400 millions de francs de 1940, mais c'était une somme énorme, 400 millions de francs de 1940, tous les jours à l'Allemagne. Et il y a la ligne de démarcation dont les Allemands se servent comme d'un garrot, ils ouvrent ou ferment, s'ils sont contents ou pas contents du gouvernement, pour faire pression, et vous avez tout ça. Vous voulez des assouplissements. Et Hitler voulait aussi, mais c'est Pétain qui est demandeur, c'est Pétain qui est demandeur, qui cherche à avoir un entretien. Et Hitler voulait non seulement voir Pétain, mais il voulait voir Franco. Car on oublie également que vous avez l'entretien, le premier montoir, c'est Hitler-Laval, hein, Laval-Parabetz, qui était devenu ambassadeur, ce journaliste qui avait épousé une Française, d'ailleurs, la secrétaire de Lucher, qui sera fusillée à la Libération, directeur d'un journal de la Collaboration, et il avait épousé donc cette Française, et bon, il s'était arrivé, ce journaliste qui devient ambassadeur, pour un journaliste c'est une promotion bien entendu, et qui va faire la politique de l'Allemagne en grande partie. En grande partie, faire la politique de l'Allemagne. Et donc, lui aussi était partisan d'une entrevue pour essayer de régler les problèmes. Et Pétain était demandeur. Il y a d'abord l'entrevue avec Laval. Laval est surpris. Il ne s'attendait pas du tout à rencontrer Hitler. Il s'attendait à rencontrer Ribbentrop, qui était ministre des Affaires étrangères du Reich. Parce qu'Hitler va à la frontière franco-espagnole voir le général Franco. Parce que l'ambition d'Hitler, qui avait compris tardivement, et c'est un miracle, que la Méditerranée était de première importance, que ses marins lui disaient, mais ce qu'il ne comprenait pas, car Hitler est un terrien, il comprenait pas qu'historiquement, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça changerait parce que les conditions de la guerre ont changé et les armes ont changé. Mais depuis le début du monde, c'est toujours la mer qui a gagné contre la terre, finalement. Donc Hitler n'avait pas compris, ne savait pas, ne comprenait pas ça. Ses marins lui disaient, la Méditerranée, c'est très important. Il faut aller de l'autre côté, la Méditerranée. Il faut prendre les bases françaises en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Bon, et Hitler n'avait pas compris. Et puis il comprend tardivement et il va voir Franco. Et Franco, pour faire un accord avec Franco qu'il avait soutenu pendant toute la guerre d'Espagne, car la guerre d'Espagne, Franco gagne parce qu'il est soutenu par deux pays totalitaires, l'Italie et l'Allemagne. N'est-ce pas ? Bon, mais Franco le reçoit, enfin il se retrouve à Hendaye, n'est-ce pas ? Et dans le wagon d'Hitler, et à ce moment-là, Franco ne dit pas non à une attaque sur Gibraltar, parce que Gibraltar, il fallait d'abord prendre Gibraltar, on prenait Gibraltar, puis après on passait au Maroc espagnol, au Maroc français, on pouvait d'ailleurs passer au Maroc espagnol, sans passer par Gibraltar, mais c'est un autre problème. Et Franco refuse, non pas par un refus catégorique, mais il refuse, je vais utiliser une image qui va peut-être choquer sur Canal Academy, mais il refuse comme une femme refuse ses faveurs d'une façon élégante en demandant des bijoux que le prétendant ne peut pas acheter, parce qu'elle en demande trop. Et Franco explique à Hitler que oui, bien sûr, naturellement, il est redevable à l'Allemagne de beaucoup de choses, mais qu'il va lui avoir des tas de problèmes avec les Espagnols. La guerre civile espagnole était finie depuis 6 mois à peine. Le feu couvait sous la cendre. Tout ça aurait été ranimé, d'autant plus que les Anglais, évidemment, auraient joué leur jeu pour animer cette guerre civile. Alors Franco demande des choses que Hitler ne peut pas les donner, et puis il revient et il voit le maréchal Pétain, il rencontre le maréchal Pétain à Montoire. Je sais exactement combien de temps l'entrevue a duré, parce que le maréchal était accompagné jusqu'au wagon de Hitler par le docteur Ménétrel, et que sur un petit bristol que j'ai trouvé, enfin, que sa veuve, la veuve du docteur Ménétrel, m'a montré, il y a le temps de la durée. Arrivée telle heure, partie telle heure. Ça a duré 1h15 à peu près. Mais dans 7h15, on ne dit pas grand-chose, parce qu'il y a Hitler qui parle, longuement d'ailleurs. Il faut traduire. Schmitt, l'interprète, traduit. Puis après, le maréchal répond, il faut traduire. Bon, finalement, c'est l'interprète qui a le plus souvent la parole. Et il y a des paroles, quand on retrouve tout ça à travers les rapports de Schmitt, qui sont des rapports en disant oui, nous, il faudrait trouver un accord, quelque chose, nous ne pouvons pas. Et Hitler, et c'est Schmitt qui met le mot collaboration. Le mot collaboration, qui va faire une triste fortune, si vous voulez, le mot collaboration est un mot inventé, enfin trouvé par Schmitt, parce que Hitler avait dit qu'il faudrait trouver la façon de travailler ensemble, mais le mot collaboration se trouve déjà dans la convention d'armistice, dans un des articles, plusieurs articles de convention, en disant qu'il faudra que l'administration française collabore avec les forces armées d'occupation. Alors, Montoire, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça commence à passer, mais enfin, ça a été l'objet le premier de l'attaque contre Pétain et contre et ça a beaucoup surpris tous les Français, ça les a choqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photo, la télévision n'existait pas, le transistor est de 1956. L'information était très lente à venir. J'ai cité dans mon livre le temps qu'il a fallu pour que les journaux publient la photo de Montoire. Il a fallu 4 ou 5 jours avant la photo. Et comme les journaux n'étaient que sur une demi-page ou n'avaient qu'une feuille recto verso, c'était pas du tout une photo gigantesque, une photo géante, c'était une photo de colonne. Et c'était, bon, on a dit une rencontre. Le maréchal Pétain a repris le mot collaboration dans son discours de la fin du mois. Alors, oui, il a dit le mot, il faut avoir une pour, et dans son discours, il dit pour obtenir tel et tel événement, pour obtenir la libération des prisonniers, 2 millions de prisonniers. Et aujourd'hui, ceux qui attaquent Montoire ne savent pas que leur grand-mère, si leur grand-père était prisonnier, ont écrit au maréchal Pétain pour le remercier. Parce que les prisonniers écrivaient, même ceux qui sont devenus après de grands résistants, je cite la lettre du père Dillard, qui est mort en déportation, mais qui était prisonnier d'hier à l'époque, il écrit au maréchal Pétain pour dire, le remercier, parce que tous pensent que Montoire va apporter un soulagement. Or, Montois n'apportera aucun soulagement. Au contraire, ça apportera une recrudescence de pression.
Alors, Henri Amoreau, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je souhaiterais faire peut-être une dernière image, et c'est une image très importante dans votre livre, c'est que vous dites, malgré Montoir, entre Londres et Vichy, les fils ne sont absolument pas rompus, et il y a même un accord, le fameux accord Chevalier-Halifax.
Oui, il y a même un accord avec Rougier, le professeur Rougier, qui est envoyé, qui part. On n'arrive pas à Londres comme ça pour voir Churchill comme ça, du jour au lendemain. D'abord, on n'y arrive pas lorsqu'on parle Vichy. Il faut quand même avoir une permission, une possibilité d'avion, de départ, passer par l'Espagne, etc. Et le professeur Rougier ne part pas en catimini, en secret, non, pas du tout. Il connaissait les Anglais, il est reçu par Churchill. Mmh. Il est reçu par Churchill le jour où Churchill apprend Montoir. Alors, Churchill entre dans une colère churchillienne, il dit, je vais faire bombarder Vichy, etc. Et Rougier lui explique qu'en principe, il ne sait pas, lui, il est à Londres, mais quand, parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a la tentative du vainqueur qui veut amadouer le vainqueur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut y insister là-dessus. Montoir n'apporte aucun soulagement. Et non seulement Montoir n'apporte aucun soulagement, mais Montoir apporte immédiatement, dans les jours qui suivent Montoir, 3 jours après, 4 jours après, l'expulsion de 70 000 Alsaciens-Lorrains francophiles qui sont expulsés d'Alsace et de Lorraine, n'est-ce pas ? C'est donc en contradiction avec tout. Et puis, il n'y a rien du tout, aucun soulagement concernant les prisonniers de guerre. Quelques libérations demandées par Pétain, l'autorisation aux soldats français qui étaient réfugiés en France de regagner la France, mais rien, aucun soulagement pour les frais de 400 millions par jour. Boutillier, qui était ministre des Finances, fait un truc, il dit, du moment qu'il y a eu Montoir, je ne paie plus. Et pendant 5 jours, 6 jours, la France ne paie plus 400 millions par jour. Ça fait 5 jours, ça fait 2 milliards, hein, nous sommes d'accord. Enfin, je crois. Et donc, il ne paie plus. Mais les Allemands, immédiatement, disent, non, mais ça ne va pas, vous ne payez plus. Ah oui, mais il y a le Montoir. Mais Montoir, on s'en fiche. Ils disent pas ça comme ça. Et il faut payer le retard que vous avez acquis. Il n'y a aucune amélioration. Et j'ajoute que les Espagnols et les Italiens, beaucoup plus encore que les Espagnols, alliés de l'Allemagne, sont furieux de Montoir. Les Italiens qui avaient des ambitions sur la Tunisie, sur la Corse, sur Nice, disent, mais alors, si Pétain et Hitler s'entendent, nos ambitions vont à l'eau, puisque, évidemment, on ne va pas pouvoir nous donner ce que nous voulons. Les Espagnols, qui avaient des ambitions sur le Maroc, puisque le Maroc était protectorat français, et qui avaient également des ambitions sur Oran, disent, on ne va pas pouvoir... Vous comprenez ? Donc, tout le monde a saboté Montoir, et les Anglais, alors...
Chacun a son Montoir, c'est ce que vous dites. Chacun a son Montoir. Henri Amoreau, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. Il s'agit de la première partie de l'émission Un jour dans l'histoire consacrée à Pour en finir avec Vichy, Les racines des passions 1940-1941, publiée chez Robert Laffont. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième partie. Merci et à très bientôt.